Anatole France, Thaïs, Le Forbe, Fin. Quand il rouvrit les yeux, il vit autour de lui des religieux revêtus de cuculs noirs qui lui versaient de l'eau sur les tempes et récitaient des exorcismes. Plusieurs se tenaient dehors, portant des palmes. Comme nous traversions le désert, dit l'un d'eux, nous avons entendu des cris dans ce tombeau, et étant entrés, nous t'avons vu gisant inerte sur la dalle. Sans doute des démons t'avaient terrassé, ils se sont enfuis à notre approche. Paphnus, soulevant la tête, demanda d'une voix faible, « Mes frères, qui êtes-vous? Et pourquoi tenez-vous des palmes dans vos mains? N'est-ce point en vue de ma sépulture ?» Il lui fut répondu, « Frère, ne sais-tu pas que notre père Antoine, âgé de 105 ans, et averti de sa fin prochaine, descend du mont Colzin où il s'était retiré et vient bénir les innombrables enfants de son âme. Nous nous rendons avec des palmes au-devant de notre père spirituel. Mais toi, frère, comment ignores-tu un si grand événement? Est-il possible qu'un ange ne soit pas venu t'en avertir dans ce tombeau ?»« Hélas, répondit Paphnus, je ne mérite pas une telle grâce, les seuls hôtes de cette demeure sont des démons et des vampires. Priez pour moi, je suis Paphnus, abbé d'Antinoé, le plus misérable des serviteurs de Dieu. » Au nom de Paphnus, tous, agitant leurs palmes, murmuraient des louanges. Celui qui avait déjà pris la parole s'écria avec admiration, « Se peut-il que tu sois ce saint Paphnus, célèbre par de tels travaux qu'on doute qu'il n'égalera pas un jour le grand Antoine lui-même ? Très vénérable, c'est toi qui as converti à Dieu la courtisane Thaïs et qui, élevée sur une haute colonne, a été ravie par les séraphins. Ceux qui veillaient la nuit au pied de la stèle virent ta bienheureuse assomption. Les ailes des anges t'entouraient d'une blanche nuée, et ta droite étendue bénissait les demeures des hommes. Et le lendemain, quand le peuple ne te vit plus, un long gémissement monta vers la stèle découronnée. Mais Flavien, ton disciple, publia le miracle et prit à ta place le gouvernement des moines. Seul un homme simple du nom de Paul voulut contredire le sentiment unanime. Il assurait qu'il t'avait vu en rêve, emporté par des diables. La foule voulait le lapider, et c'est merveille qu'il ait pu échapper à la mort. Je suis Zosime, abbé de ces solitaires que tu vois prosternés à tes pieds. Comme eux, je m'agenouille devant toi, afin que tu bénisses le père avec les enfants. Puis tu nous conteras les merveilles que Dieu a daigné accomplir par ton entremise. Loin de m'avoir favorisé comme tu crois, répondit Paphnus. Le Seigneur m'a éprouvé par d'effroyables tentations. Je n'ai point été ravi par les anges, mais une muraille d'ombre s'est élevée à mes yeux et elle a marché devant moi. J'ai vécu dans un songe. Hors de Dieu, tout est rêve. Quand je fis le voyage d'Alexandrie, j'entendis un peu d'heure beaucoup du discours, et je connus que l'armée de l'erreur était innombrable. Elle me poursuit, et je suis environné d'épées. Zosime répondit, « Vénérable père, il faut considérer que les saints, et spécialement les saints solitaires, subissent de terribles épreuves. Si tu n'as pas été porté au ciel dans les bras des séraphins, il est certain que le Seigneur a accordé cette grâce à ton image, puisque Flavien, les moines et le peuple ont été témoins de ton ravissement. Cependant, Paphnus résolut d'aller recevoir la bénédiction d'Antoine. Frère Zosime, dit-il, donne-moi une de ces palmes, et allons au-devant de notre père. Allons, répliqua Zosime. L'ordre militaire convient aux moines qui sont les soldats par excellence. Toi et moi, étant entamés, nous marcherons devant, et ceux-ci nous suivront en chantant des psaumes. Ils se mirent en marche, et Paphnus disait « Dieu est l'unité, car il est la vérité qui est une. Le monde est divers parce qu'il est l'erreur. Il faut se détourner de tous les spectacles de la nature, même des plus innocents en apparence. Leur diversité qui les rend agréables est le signe qu'ils sont mauvais. C'est pourquoi je ne puis voir un bouquet de papyrus sur les eaux dormantes sans que mon âme se voile de mélancolie. Tout ce que perçoivent les sens est détestable. Le moindre grain de sable apporte un danger. Chaque chose nous tente. La femme n'est que le composé de toutes les tentations éparses dans l'air léger, sur la terre fleurie, dans les eaux claires. Heureux celui dont l'âme est un vase scellé. Heureux qui sut se rendre muet, aveugle et sourd, et qui ne comprend rien du monde afin de comprendre Dieu. Zosime, ayant médité ces paroles, y répondit de la sorte. « Père vénérable, il faut que je t'avoue mes péchés, puisque tu m'as montré ton âme. Ainsi, nous nous confesserons l'un à l'autre, selon l'usage apostolique. Avant que d'être moine, j'ai mené dans le siècle une vie abominable. À Madura, ville célèbre par ses courtisanes, je recherchais toutes sortes d'amour. Chaque nuit, je soupais en compagnie de jeunes débauchés et de joueuses de flûte, et je ramenais chez moi celles qui m'avaient plu davantage. Un saint tel que toi n'imaginerait jamais jusqu'où m'emportait la fureur de mes désirs. Il me suffira de te dire qu'elle n'épargnait ni les matrones ni les religieuses, et se répandait en adultère et en sacrilège. J'excitais par le vin l'ardeur de mes sens, et l'on me citait avec raison pour le plus grand buveur de Madura. Pourtant, j'étais chrétien, et je gardais dans mes égarements ma foi en Jésus crucifié. Ayant dévoré mes biens en débauche, je ressentais déjà les premières atteintes de la pauvreté, quand je vis le plus robuste de mes compagnons de plaisir dépérir rapidement aux atteintes d'un mal terrible. Ses genoux ne le soutenaient plus, ses mains inquiètes refusaient de le servir, ses yeux obscurcis se fermaient. Il ne tirait plus de sa gorge que d'affreux mugissements. Son esprit, plus pesant que son corps, sommeillait, car pour le châtier d'avoir vécu comme les bêtes, Dieu l'avait changé en bête. La perte de mes biens m'avait déjà inspiré des réflexions salutaires. Mais l'exemple de mon ami fut plus précieux encore. Il fit une telle impression sur mon cœur que je quittai le monde et me retirai dans le désert. Eh bien, j'y goûte depuis 20 ans une paix que rien n'a troublée. J'exerce avec mes moines les professions de tisserand, d'architecte, de charpentier et même de scribe, quoique, à vrai dire, j'ai peu de goût pour l'écriture, ayant toujours à la pensée préféré l'action. Mes jours sont pleins de joie et mes nuits sont sans rêve. Et j'estime que la grâce du Seigneur est en moi, parce qu'au milieu des péchés les plus horribles, j'ai toujours gardé l'espérance. En entendant ces paroles, Paphnus leva les yeux au ciel et murmura « Seigneur, cet homme souillé de tant de crimes, cet adultère, ce sacrilège, tu le regardes avec douceur et tu te détournes de moi qui ai toujours observé tes commandements. que ta justice est obscure, ô mon Dieu, et que tes voies sont impénétrables. Zazie m'étendit les bras. Regarde, Père vénérable, on dirait des deux côtés de l'horizon des files noires de fourmis migrantes. Ce sont nos frères qui vont comme nous au-devant d'Antoine. Quand ils parvinrent au lieu du rendez-vous, ils découvrirent un spectacle magnifique. L'armée des religieux s'étendait sur trois rangs en un demi-cercle immense. Au premier rang se tenaient les anciens du désert, la crosse à la main, et leur barbe pendait jusqu'à terre. Les moines, gouvernés par les abbés Éphrem et Sérapion, ainsi que tous les cénobites du Nil, formaient la seconde ligne. Derrière eux apparaissaient les ascètes venus des rochers lointains. Les uns portaient sur leurs corps noircis et desséchés d'informes lambeaux, d'autres n'avaient pour vêtements que des roseaux liés en bottes avec des viornes. Plusieurs étaient nus, mais Dieu les avait couverts d'un poil épais comme la toison des brebis. Ils tenaient tous à la main une palme verte. L'on eût dit un arc-en-ciel d'émeraude, et ils étaient comparables au cœur des élus, aux murailles vivantes de la cité de Dieu. Il régnait dans l'assemblée un ordre si parfait que Paphnutius trouva sans peine les moines de son obéissance. Il se plaça près d'eux, après avoir pris soin de cacher son visage sous sa cucule, pour demeurer inconnu et ne point troubler leur pieuse attente. Tout à coup, s'éleva une immense clameur. Le saint! Criait-on de toutes parts. Le saint! Voilà le grand saint! Voilà celui contre lequel l'enfer n'a point prévalu! Le bien-aimé de Dieu, notre Père Antoine. Puis un grand silence se fit, et tous les fronts se prosternèrent dans le sable. Du faîte d'une colline, dans l'immensité déserte, Antoine s'avançait, soutenu par ses disciples bien-aimés, Macaire et Amatas. Il marchait à pas lents, mais sa taille était droite encore et l'on sentait en lui les restes d'une force surhumaine. Sa barbe blanche s'étalait sur sa large poitrine, son crâne poli jetait des rayons de lumière comme le front de Moïse. Ses yeux avaient le regard de l'aigle. Le sourire de l'enfant brillait sur ses joues rondes. Il leva, pour bénir son peuple, ses bras fatigués par un siècle de travaux inouïs, et sa voix jeta ses derniers éclats dans cette parole d'amour. Que tes pavillons sont beaux, ô Jacob, que tes tentes sont aimables, ô Israël. Aussitôt, d'un bout à l'autre de la muraille animée, retentit comme un grondement harmonieux de tonnerre le psaume « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Cependant, accompagné de Macaire et d'Amatas, Antoine parcourait les rangs des anciens, des anachorètes et des cénobites. Ce voyant qui avait vu le ciel et l'enfer, ce solitaire qui, du creux d'un rocher, avait gouverné l'Église chrétienne, ce saint qui avait soutenu la foi des martyrs au jour de l'épreuve suprême, ce docteur dont l'éloquence avait foudroyé l'hérésie, parlait tendrement à chacun de ses fils et leur faisait des adieux familiers à la veille de sa mort bienheureuse que Dieu qui l'aimait lui avait enfin promise. Il disait aux abbés Éphrem et Sérapion: Vous commandez de nombreuses armées, vous êtes tous deux illustres stratèges. Aussi serez-vous revêtus dans le ciel d'une armure d'or, et l'archange Michel vous donnera le titre de Kiliarque de Sébélis. Apercevant le vieillard Palémon, Il l'embrassa et dit « Oh, voici le plus doux et le meilleur de mes enfants. Son âme répand un parfum aussi suave que la fleur des fèves qu'il sème chaque année. » À l'abbé Zosime, il parla de la sorte. « Tu n'as pas désespéré de la bonté divine, c'est pourquoi la paix du Seigneur est en toi. Le lys de tes vertus a fleuri sur le fumier de ta corruption. » Il tenait à tous des propos d'une infaillible sagesse. Aux anciens, il disait « L'apôtre a vu autour du trône de Dieu 24 vieillards assis, vêtus de robes blanches et la tête couronnée. Aux jeunes hommes, soyez heureux, laissez la tristesse aux heureux de ce monde. » C'est ainsi que, parcourant le front de son armée filiale, il semait les exhortations. Paphnus, le voyant approcher, tomba à genoux, déchiré entre la crainte et l'espérance. « mon père » cria-t-il dans son angoisse, « mon père, viens à mon secours, car je péris. J'ai donné à Dieu l'âme de Thaïs. J'ai habité le faîte d'une colonne et la chambre d'un sépulcre. Mon front, sans cesse prosterné, est devenu calleux comme le genou d'un chameau. Et pourtant Dieu s'est retiré de moi. Bénis-moi, mon père, et je serai sauvé. Secoue l'hysope, et je serai lavé, et je brillerai comme la neige. » Antoine ne répondait point. Il promenait sur ce d'Antinoé ce regard dont nul ne pouvait soutenir l'éclat. Ayant arrêté sa vue sur Paul, qu'on nommait le Simple, il le considéra longtemps, puis il lui fit signe d'approcher. Comme ils s'étonnaient tous que le saint s'adressât à un homme privé de sens, Antoine dit « Dieu a accordé à celui-ci plus de grâce qu'à aucun de vous. Lève les yeux, mon fils Paul, et dis ce que tu vois dans le ciel. » Paul le Simple leva les yeux. Son visage resplendit et sa langue se délia. « Je vois dans le ciel, dit-il, un lit orné de tentures de pourpre et d'or. Autour, trois vierges font une garde vigilante afin qu'aucune âme n'en approche, sinon l'élu à qui le lit est destiné. » Croyant que ce lit était le symbole de sa glorification, Paphnus rendait déjà grâce à Dieu. Mais Antoine lui fit signe de se taire et d'écouter le Simple qui murmurait dans l'extase. « Les trois vierges me parlent. Elles me disent « Une sainte est près de quitter la terre. Thaïs d'Alexandrie va mourir. Et nous avons dressé le lit de sa gloire, car nous sommes ses vertus, la foi, la crainte et l'amour. » Antoine demanda « 12 enfants, que vois-tu encore ?» Paul promena vainement ses regards du zénith au nadir, du couchant au levant, quand tout à coup, ses yeux rencontrèrent l'abbé d'Antinoé. Une sainte épouvante pâlit son visage et ses prunelles reflétèrent des flammes invisibles. « Je vois, murmura-t-il, trois démons qui, pleins de joie, s'apprêtent à saisir cet homme. Ils sont à la semblance d'une tour, d'une femme et d'un mage. Tous trois portent leur nom marqué au fer rouge, le premier sur le front, le second sur le ventre, le troisième sur la poitrine, et ces noms sont Orgueil, Luxure et Doute. J'ai vu !» Ayant ainsi parlé, Paul, les yeux hagards, la bouche pendante, rentra dans sa simplicité. Et comme les moines d'Antinoé regardaient Antoine avec inquiétude, le saint prononça ces seuls mots. Dieu a fait connaître son jugement équitable. Nous devons l'adorer et nous taire. Il passa, il allait bénissant. Le soleil descendu à l'horizon l'enveloppait d'une gloire, et son ombre démesurément grandie par une faveur du ciel se déroulait derrière lui comme un tapis sans fin, en signe du long souvenir que ce grand saint devait laisser parmi les hommes. Debout mais foudroyé, Paphnus ne voyait et n'entendait plus rien. Cette parole unique emplissait ses oreilles, « Thaïs va mourir !» Une telle pensée ne lui était jamais venue. 20 ans, il avait contemplé une tête de momie, et voici que l'idée que la mort éteindrait les yeux de Thaïs l'étonnait désespérément. « Thaïs va mourir !» Parole incompréhensible. « Thaïs va mourir !» En ces trois mots, quel sens terrible et nouveau !« Thaïs va mourir !» Alors pourquoi le soleil, les fleurs, les ruisseaux et toute la création ?« Thaïs va mourir !» À quoi bon l'univers ? Soudain, il bondit. « Oh, la revoir encore !» Il se mit à courir. Il ne savait pas où il était ni où il allait, mais l'instinct le conduisait avec une entière certitude. Il marchait droit au Nil. Un essaim de voile couvrait les hautes eaux du fleuve. Il sauta dans une embarcation montée par des Nubiens, et là, couché à l'avant, les yeux dévorant l'espace, il cria de douleur et de rage. Fou, fou que j'étais de n'avoir pas possédé Thaïs quand il en était temps encore. Fou d'avoir cru qu'il y avait au monde autre chose qu'elle. Ô démence, j'ai songé à Dieu, au salut de mon âme, à la vie éternelle, comme si tout cela comptait pour quelque chose quand on a vu Thaïs. Comment n'ai-je pas senti que l'éternité bienheureuse était dans un seul des baisers de cette femme, que sans elle la vie n'a pas de sens et n'est qu'un mauvais rêve. Ô stupide, tu l'as vue et tu as désiré les biens de l'autre monde. Ô lâche, tu l'as vue et tu as craint Dieu. Dieu, le ciel, qu'est-ce que cela? Et qu'ont-ils à t'offrir qui vaille la moindre parcelle de ce qu'elle t'eût donné? Ô lamentable insensé, qui cherchait la bonté divine ailleurs que sur les lèvres de Thaïs, quelle main était sur tes yeux? Maudit soit celui qui t'aveuglait alors. Tu pouvais acheter au prix de la damnation un moment de son amour, et tu ne l'as pas fait. Elle t'ouvrait ses bras, pétris de la chair et du parfum des fleurs, et tu ne t'es pas abîmé dans des enchantements indicibles de son sein dévoilé. Tu as écouté la voix jalouse qui te disait « Abstiens-toi ». Oh, dupe triste, triste dupe, ô regret, ô remords, ô désespoir, n'avoir pas la joie d'emporter en enfer la mémoire de l'heure inoubliable et de crier à Dieu « Brûle ma chair, dessèche tout le sang de mes veines, fais éclater mes os, mais tu ne m'ôteras pas le souvenir qui me parfume et me rafraîchit par les siècles des siècles. Thaïs va mourir, Dieu ridicule, si tu savais comme je me moque de ton enfer. Thaïs va mourir, et elle ne sera jamais à moi, jamais, jamais. » Et tandis que la barque suivait le courant rapide, il restait des journées entières, couché sur le ventre répétant « Jamais, jamais, jamais. » Puis, à l'idée qu'elle s'était donnée que ce n'était pas à lui, qu'elle avait répandu sur le monde des flots d'amour et qu'il n'y avait pas trempé ses lèvres. Il se dressait debout, farouche, et hurlait de douleur. Il se déchirait la poitrine avec ses ongles et mordait la chair de ses bras. Il songeait, oh, si je pouvais tuer tous ceux qu'elle a aimés. L'idée de ses meurtres l'emplissait d'une fureur délicieuse. Il méditait d'égorger Lysias, lentement, à loisir, en le regardant jusqu'au fond des yeux. Puis sa fureur tombait tout à coup. Il pleurait, il sanglotait. Il devenait faible et doux. Une tendresse inconnue amollissait son âme. Il lui prenait envie de se jeter au cou du compagnon de son enfance et de lui dire « Nicia, je t'aime puisque tu l'as aimée. Parle-moi d'elle. Dis-moi ce qu'elle te disait. » Et sans cesse, le fer de cette parole lui perçait le cœur. « Thaïs va mourir. » Clarté du jour, ombres argentées de la nuit, astres, cieux, arbres aux cimes tremblantes, bêtes sauvages, animaux familiers, âmes anxieuses des hommes, n'entendez-vous pas, Thaïs va mourir. Lumière, souffles et parfums, disparaissez. Effacez-vous, formes et pensées de l'univers, Thaïs va mourir. Elle était la beauté du monde et tout ce qui l'approchait s'ornait des reflets de sa grâce. Ce vieillard et ses sages, assis près d'elle au banquet d'Alexandrie, qu'ils étaient aimables, que leurs paroles étaient harmonieuses. L'essaim des riantes apparences voltigeait sur leurs lèvres et la volupté parfumait toutes leurs pensées. Et parce que le souffle de Thaïs était sur eux, tout ce qu'ils disaient était amour, beauté, vérité. L'impiété charmante prêtait sa grâce à leur discours. Ils exprimaient aisément la splendeur humaine. Hélas, et tout cela n'est plus qu'un songe, Thaïs va mourir. Oh, comme naturellement je mourrais de sa mort. Mais peux-tu seulement mourir en brouillon desséché, fœtus macéré dans le fiel et les pleurs arides? Avorton misérable, penses-tu goûter la mort, toi qui n'as pas connu la vie? Pourvu que Dieu existe et qu'il me donne, je l'espère, je le veux. Dieu que je hais, entends-moi, plonge-moi dans la damnation. Pour t'y obliger, je te crache à la face. Il faut bien que je trouve un enfer éternel, afin d'y exhaler l'éternité de rage qui est en moi. Dès l'aube, Albine reçut la Bédantinoé au seuil des cellules. Tu es le bienvenu dans nos tabernacles de paix, vénérable père, car sans doute tu viens bénir la sainte que tu nous avais donnée. Tu sais que Dieu, dans sa clémence, l'appelle à lui. Et comment ne serais-tu pas une nouvelle que les anges ont portée de désert en désert? Il est vrai, Thaïs touche à sa fin bienheureuse. Ses travaux sont accomplis, et je dois t'instruire en peu de mots de la conduite qu'elle a tenue parmi nous. Après ton départ, comme elle était enfermée dans la cellule marquée de ton sceau, je lui envoyais avec sa nourriture une flûte semblable à celle dont jouent au festin les filles de sa profession. Ce que je faisais était pour qu'elle ne tombât pas dans la mélancolie et pour qu'elle n'eût pas moins de grâce et de talent devant Dieu qu'elle n'en avait montré au regard des hommes. Je n'avais pas agi sans prudence, car Thaïs célébrait tout le jour sur la flûte les louanges du Seigneur, et les vierges qu'attiraient les sons de cette flûte invisible disaient « Nous entendons le rossignol des bocages célestes, le signe mourant de Jésus crucifié. » C'est ainsi que Thaïs accomplissait sa pénitence, quand, après 60 jours, la porte que tu avais scellée s'ouvrit d'elle-même, et le seau d'argile se rompit sans qu'aucune main humaine l'eût touché. À ce signe, je reconnus que l'épreuve que tu avais imposée devait cesser et que Dieu pardonnait les péchés de la joueuse de flûte. Dès lors, elle partagea la vie de mes filles, travaillant et priant avec elle. Elle les édifiait par la modestie de ses gestes et de ses paroles, et elle semblait parmi elles la statue de la pudeur. Parfois, elle était triste, mais ses nuages passaient. Quand je vis qu'elle était attachée à Dieu par la foi, l'espérance et l'amour, je ne craignis pas d'employer son art et même sa beauté à l'édification de ses sœurs. Je l'invitai à représenter devant nous les actions des femmes fortes et des vierges sages de l'Écriture. Elle imitait Esther, Déborah, Judith, Marie, sœur de Lazare, et Marie, mère de Jésus. Je sais, vénérable Père, que ton austérité s'alarme à l'idée de ces spectacles. Mais tu aurais été touché toi-même si tu l'avais vu dans ces pieuses scènes répandre des pleurs véritables et tendre au ciel ses bras comme des palmes. Je gouverne depuis longtemps des femmes et j'ai pour règle de ne point contrarier leur nature. Toutes les graines ne donnent pas les mêmes fleurs. Toutes les âmes ne se sanctifient pas de la même manière. Il faut considérer aussi que Thaïs s'est donnée à Dieu quand elle était belle encore, et un tel sacrifice, s'il n'est point unique, est du moins très rare. Cette beauté, son vêtement naturel ne l'a pas encore quitté après 3 mois de la fièvre dont elle meurt. Comme, pendant sa maladie, elle demande sans cesse à voir le ciel, je la fais porter chaque matin dans la cour, près du puits, sous l'antique figuier, à l'ombre duquel les abbesses de ce couvent ont coutume de tenir leurs assemblées. Tu l'y trouveras, Père vénérable, mais hâte-toi, car Dieu l'appelle et ce soir un suaire couvrira ce visage que Dieu fit pour le scandale et pour l'édification du monde. Paphnus suivit Albine dans la cour inondée de lumière matinale. Le long des toits de briques, des colombes formaient une file de perles. Sur un lit, à l'ombre du figuier, Thaïs reposait toute blanche, les bras en croix. Debout à ses côtés, des femmes voilées récitaient les prières de l'agonie. Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta grande mansuétude, et efface mon iniquité selon la multitude de tes miséricordes. Il l'appela Thaïs. Elle souleva les paupières et tourna du côté de la voie les globes blancs de ses yeux. Albine fit signe aux femmes voilées de s'éloigner de quelques pas. « Thaïs !» répéta le moine. Elle souleva la tête. Un souffle léger sortit de ses lèvres blanches. « C'est toi, mon père ? Te souvient-il de l'eau de la fontaine et des dattes que nous avons cueillies ? Ce jour-là, mon père, je suis né à l'amour, à la vie. » Elle se tut et laissa retomber sa tête. La mort était sur elle et la sueur de l'agonie couronnait son front. Rompant le silence auguste, une tourterelle éleva sa voix plaintive. Puis les sanglots du moine se mêlèrent à la psalmodie des vierges. Lave-moi de mes souillures et purifie-moi de mes péchés, car je connais mon injustice et mon crime se lève sans cesse contre moi. Tout à coup, Thaïs se dressa sur son lit. Ses yeux de violette s'ouvrirent tout grands. Et, les regards envolés, les bras tendus vers les collines lointaines, elle dit d'une voix limpide et fraîche, « Les voilà, les rosées de l'éternel matin !» Ses yeux brillaient, une légère ardeur colorait ses tempes. Elle revivait, plus suave et plus belle que jamais. Paphnus, agenouillé, l'enlaça de ses bras noirs. « Ne meurs pas » criait-il d'une voix étrange, qu'il ne reconnaissait pas lui-même. « Je t'aime, ne meurs pas. Écoute, ma Thaïs. Je t'ai trompé, je n'étais qu'un fou misérable. Dieu, le ciel, tout cela n'est rien. Il n'y a de vrai que la vie de la terre et l'amour des êtres. Je t'aime, ne meurs pas. Ce serait impossible, tu es trop précieuse. Viens, viens avec moi, fuyons. Je t'emporterai bien loin dans mes bras, viens, aimons-nous. Entends-moi donc, ô ma bien-aimée, dis, je vivrai, je veux vivre. Thaïs, Thaïs, lève-toi. » Elle ne l'entendait pas. Ses prunelles nageaient dans l'infini. Elle murmura, « Le ciel s'ouvre. Je vois les anges, les prophètes, les saints. Le bon Théodore est parmi eux, les mains pleines de fleurs. Il me sourit et m'appelle. Deux séraphins viennent à moi. Ils approchent. Qu'ils sont beaux. Je vois Dieu. » Elle poussa un soupir d'allégresse et sa tête retomba inerte sur l'oreiller. Thaïs était morte. Paphnus, dans une étreinte désespérée, la dévorait de désir, de rage et d'amour. Albine lui cria, « Va-t'en, maudit !» Et elle posa doucement ses doigts sur les paupières de la morte. Paphnus recula chancelant, les yeux brûlés de flammes et sentant la terre s'ouvrir sous ses pas. Les vierges entonnaient le cantique de Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël !» Brusquement, la voix s'arrêta dans leur gorge. Elles avaient vu la face du moine, et elles fuyaient d'épouvante en criant « Un vampire ! Un vampire !» Il était devenu si hideux qu'en passant la main sur son visage, il sentit sa laideur.